Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots.
Moi, j'ai la chance de fréquenter des grands de ce monde. Écoute, on reçoit plein de monde dans cette émission. Justine Dufour-Lapointe, médaillée d'argent aux Jeux olympiques. L'homme qui remplit ses salles, oui. Christian Page, à guichet fermé hier à ta conférence.
Oui, à peu près. Écoute, c'était quand même surprenant. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui ont fait le déplacement hier pour assister à ma conférence au Centre Roussin. Les conditions climatiques, les conditions routières étaient vraiment pas idéales. Et moi, je m'attendais là vraiment à avoir une salle à moitié pleine, comme on dit. Et c'était comble. Alors, félicitations à tous les gens qui se sont déplacés. J'espère qu'ils ont apprécié la soirée. En tout cas, moi, j'ai apprécié leur présence en salle, ça c'est certain, parce que j'avais un excellent public hier soir.
Monsieur Page, vous nous avez mis la puce à l'oreille tantôt avec ton histoire de Sainte Catherine's en Ontario et un rapport de police, tu l'as même devant toi.
Voilà. En fait, je te remets un peu dans le contexte de l'histoire. Hein. On a un prélude à cette histoire-là. Donc, le 15 janvier 1970, des policiers se rendent au 237 Church Street. C'est une maison qui contient 4 logements et il y a une querelle de ménage. Donc, les policiers vont sur place, calment les tourtereaux. Ça va bien dans notre dynamique de la Saint-Valentin. Donc, on calme les tourtereaux et au moment où l'un des policiers se prépare à sortir, l'agent William Weir, il est accosté par une locataire. Et elle lui dit, « Est-ce que vous êtes ici pour les bruits bizarres? » Et là, les bruits bizarres, oui, on entend des coups frappés dans les murs, des bruits de pas dans les escaliers, c'est peut-être des plaisantins, on n'est pas sûr. Donc, l'agent Weir met ça dans son rapport, il arrive au bureau, ce qu'il va faire, il va contacter les services de la ville, les ingénieurs de la ville, et entre le 15 janvier et le début février, donc il y a un agent municipal qui va passer sur place, des dératiseurs au cas où il y aurait des rats, et ensuite des ingénieurs en bâtiment. On ne trouve absolument rien. Et puis arrive cette fameuse journée du 6 février. Encore une fois, querelle de ménage, toujours les mêmes. Les policiers se rendent sur place, on calme les tourtereaux. Et au moment de sortir, l'un des agents, l'agent Crawford, se fait accoster par une autre locataire qui lui dit « Vous devez absolument venir chez moi, il y a quelque chose d'étrange ». Donc, l'agent Crawford monte chez la dame en question, qu'on va appeler ici les Pratt. Ce sont des gens qui viennent de l'Europe de l'Est. C'est une famille composée des parents et de deux enfants, Mark, 8 ans, et Peter, qui a 11 ans. Et lorsqu'il entre dans la maison, là, ces gens-là lui racontent qu'il y a des phénomènes étranges qui se produisent dans leur domicile. Donc, des coups frappés dans les murs, des meubles qui se déplacent tout seuls, des penderies qui se vident de leur contenu. Alors, l'agent Crawford est bien sûr un peu sceptique. Et au moment où il parle avec les gens, une chaise de la cuisine glisse sur le plancher jusque dans le corridor. Et comme il regarde ça, il voit une horloge accrochée au mur qui bondit et tombe sur le sol. Il le voit de ses yeux vus. Là.
Okay.
Et puis là, à ce moment-là, il y a sur place un prêtre catholique de la communauté qui est là, le père Stevens, et qui dit à l'agent Crawford, « Vous voyez, c'est ce à quoi ces paroissiens sont confrontés chaque jour, depuis plusieurs jours maintenant. » Et ce qui devient de plus en plus inquiétant, c'est que ces manifestations, au début, qui ne semblaient pas être ciblées vers rien, donc simplement coups dans les murs, meubles qui se déplacent, là, de plus en plus semble cibler le plus vieux des deux garçons, Peter, qui a 11 ans. Les objets sont lancés dans sa direction, des potiches sont lancées contre lui, des meubles se déplacent vers lui, les chaises, parfois, sur lesquelles il est assis, vont se renverser également. Et l'agent Crawford, au moment où il remplit son rapport de police, il voit devant lui une espèce d'étagère sur laquelle sont placés des trophées de sport. Il les voit tomber les uns après les autres, comme si quelqu'un les poussait de derrière le mur. Et là, il fait le tour de l'appartement, il voit le mur lézardé, et là, on lui explique ici, c'est le fantôme, entre guillemets, qui a frappé dans le mur. Le mur s'est lézardé, ici, on a un meuble qui s'est déplacé, un meuble qui a été brisé à cet endroit. Donc, l'agent Crawford remplit tout son rapport, et c'est lui qui, au début de son rapport, va dire, je n'avais pas bu, je n'avais pas consommé aucune substance, mais je l'ai vu de mes yeux. Et c'est ce qu'il rapporte dans son rapport. Tu comprendras que les autres policiers, en prenant leur corps de service, le lendemain, donc on est rendu le 7 février, en prenant le rapport, parce qu'ils vérifient tout le temps ce que leurs collègues de la veille ont vu ou ont rapporté, en lisant le rapport, évidemment, ils sont étonnés. Et au cours de la semaine qui va suivre, parce qu'on va essayer de faire une histoire courte, les policiers vont se rendre à plusieurs reprises au 237 Church Street et tous vont être témoins de phénomènes hallucinants. Le plus spectaculaire est sans aucun doute celui qui va confronter l'agent Crawford, qui retourne sur place, et à un moment donné, alors qu'il est là, il entre dans l'édifice, Madame Pratt l'attend pratiquement sur le seuil, l'entraîne rapidement dans son appartement, et là, Crawford écrit dans son rapport, il dit « Quand je suis rentré dans l'appartement, il y avait un attroupement devant la chambre des garçons. Lorsque je me suis approché, la troupe s'est dispersée un peu, et j'ai vu dans la chambre le lit qui flottait dans l'air. En fait, la tête du lit était contre le mur, ça allait. Mais le pied du lit flottait littéralement, il le rapporte dans son document, flottait littéralement à 30 cm au-dessus du sol. Il s'est penché en dessous du lit, a regardé, il n'y avait pas de levier, pas de corde, pas rien. Et là, l'agent Crawford, parce que j'ai eu la chance, il y a une quinzaine d'années, de retrouver tous les policiers qui ont été impliqués, okay, qui étaient encore vivants à ce moment-là.
Ouais.
Pardon.
Parce que là, on est en
1970. Donc, on s'est réunis autour d'une table. Et c'était amusant parce que les policiers qui étaient là échangeaient pour la première fois sur des événements depuis 1970. Et Crawford, de me raconter, il dit, c'était étonnant parce que quand je prenais le pied du lit, je me suis apposé. Bon, c'était des lits avec des montants en acier. J'ai replacé le pied du lit sur le sol. Quand je l'ai relâché, le pied du lit s'est relevé de 30 cm au-dessus du sol. Je n'avais jamais rien vu de semblable. Et quand j'appuyais, j'avais l'impression que j'enfonçais le lit dans du jello. Il y avait comme une très légère résistance, mais dès que je l'ai relâché, une fois appuyé sur le plancher, il s'est relevé puis il a remonté de 30 cm. Donc, les policiers ont été témoins de phénomènes comme cela. L'agent Richardson me raconte, il dit, à un moment donné, je me trouve sur place, il dit, il y a une nonne qui est là avec un prêtre local qui sont venus appuyer un peu les déboires de la famille Pratt, et il y a le petit Peter qui est assis sur un fauteuil dans le salon. On est tous réunis à ce moment-là et on discute des événements des derniers jours. Il dit, il y a un journal placé sur la table qui, dans un premier temps, est lancée en direction de Peter. Et là, soudain, la chaise sur laquelle est assise Peter va se soulever littéralement à peu près de 60 cm du sol. C'est quand même deux pieds, là. La chaise s'envole à deux pieds du sol. Elle est projetée dans le coin du salon avec le jeune Peter dessus. Donc, il se retrouve, passe-moi l'expression, cul par-dessus tête. Mm-hmm. Donc, et là, à ce moment-là, l'agent Richardson, il me dit l'aspect cocasse, c'est on voit le curé se lever avec la nonne, les deux se signent et quittent les lieux précipitamment, convaincus qu'il doit s'agir d'une manifestation du diable. Tous ces événements vont marquer, donc, pendant à peu près une semaine, les policiers vont se relayer au 237 Church Street, tous être témoins de ces manifestations. Je t'ai apporté ici leur rapport policier.
Ben oui.
Écoute, lire dans des rapports policiers des événements comme cela, c'est quand même étonnant. T'sais, le policier dit, bon, le lit flottait à 30 cm, les meubles se sont déplacés, il y a une horloge qui s'est décrochée du mur, il y avait des cadres qui flottaient dans l'appartement. Et la peur de la famille Pratt, bien sûr, c'est que cette information-là tombe entre les mains des journalistes. Et malheureusement, c'est éventuellement ce qui va se produire. Donc, à la mi-février, l'histoire fait la une du Standard de St. Catharines. Et là, évidemment, l'histoire du fantôme est révélée. Des gens téléphonent, demandent au service de police de leur indiquer qui sont ces gens. On va aller chez eux, on veut voir les phénomènes, les journalistes. Il y a un tel tapage médiatique. D'ailleurs, même Johnny Carson, dans son émission de Tonight Show, va faire une référence à cette histoire-là. Il va dire, chez nos Canadiens, on voit des fantômes, blablabla. Donc, tu vois, l'histoire déborde des frontières. La famille Pratt vont éventuellement emménager à Montréal. Ils vont venir rejoindre des gens qui habitent à Montréal. Ils vont rester là pendant quelques semaines. Durant ce séjour à Montréal, il n'y aura pas de manifestation, ni chez ces gens-là, ni autour de Peter, parce que c'est toujours ce jeune Peter, 11 ans, qui semble être la cible de ces manifestations étranges. Et lorsque la famille Pratt vont retourner à St. Catharines, on est rendu cette fois à la fin février 1970, il n'y aura plus aucune autre manifestation qui vont se produire. Donc, pourquoi pendant ces deux semaines, ces manifestations ont-elles été ciblées dans l'appartement des Pratt? Pourquoi l'objet, la personne au centre de ces manifestations était le jeune Peter? Et bien sûr, aujourd'hui, le doute n'est pas permis sur la réalité des manifestations grâce au fait, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt,
ben oui,
qu'au moment de la fusion des services de police de cette région de la Grande Péninsule du Niagara, le service de police de Sainte-Catherine a été fusionné, mais des policiers qui avaient été attachés à ces événements, qui ont été liés à ces événements, ont décidé de conserver leur rapport de police. Donc, ils sont allés aux archives, ils ont fait ressortir leur rapport et les ont conservés. Et c'est grâce à eux, grâce au fait de les avoir réunis, que j'ai pu, moi, avoir accès à leur rapport de police que tu as entre les mains. Et je l'avoue, moi-même, j'ai lu ça et j'étais stupéfait. Si je n'avais pas les rapports de police entre les mains, si je n'avais pas parlé avec les policiers qui ont été témoins de ces événements-là, et quelqu'un m'avait raconté un événement comme celui-là, j'aurais eu de sérieux doutes sur la réalité des manifestations. Mais dans ces cas-là, non
et
seulement...
Et on n'a jamais trouvé de piste explicative
aucune. Et non seulement les policiers sont-ils, eux, témoins de ces manifestations, mais souvent, ils ne sont pas seuls. C'est-à-dire que les policiers, à cette époque, on patrouillait souvent deux constables par voiture. Donc, les deux policiers sont présents sur place, sans compter la famille et des amis de la famille qui sont souvent présents au moment où les manifestations vont se produire. La possibilité d'une fraude, d'une manipulation, soit par la famille Pratt ou soit par les enfants, est tout à fait exclue par les policiers. Ils avaient mis des mesures de contrôle, ils ont vérifié l'ensemble des éléments et pour eux, il n'y a aucun doute que ces manifestations étaient bien réelles d'un type qu'on appelle en parapsychologie le phénomène des poltergeists. Et c'est sans aucun doute l'une des histoires les plus marquantes du 20e siècle, cette histoire de poltergeist à St. Catharines.
Oui, j'ai le rapport ici, puis tu vois, à un certain moment donné, il disait, c'est marqué « not for press ».
Ah ouais.
à ne pas remettre
aux agents de la presse, exact.
Exactement. Dans les éphémérides du mois de février, la bataille de Los Angeles.
Oui, ça c'est un truc qui intéresse particulièrement les amateurs d'OVNI. Donc, je te situe, on est durant la Deuxième Guerre mondiale. Et durant cette Deuxième Guerre mondiale, il y a cette attaque surprise le 7 décembre 1941 sur Pearl Harbor.
Oui.
Alors, évidemment, les Américains vivent un peu dans la peur de ces attaques japonaises. Alors, éventuellement, on va déployer des batteries de DCA sur la côte est au cas où on serait attaqué par les Allemands. Et on va déployer des batteries de DCA sur la côte ouest en crainte d'être attaqué par les Japonais. Et là, on a un petit prélude à notre événement. 23 février 1942, un sous-marin japonais va émerger au large des côtes de la Californie et va canarder la zone côtière dans le secteur d'Elwood. Alors, évidemment, on vient d'augmenter la peur d'une attaque japonaise d'un cran. On a toujours ce souvenir tout à fait récent dans les mémoires de l'attaque de Pearl Harbor. Et voilà que dans la nuit du 24 au 25 février 1942, une série d'événements vont marquer la région de Los Angeles. D'abord, en début de soirée, le ministère de la Défense fait savoir que selon les rumeurs, il pourrait y avoir une attaque japonaise sur la Californie. Alors, toutes les batteries d'artillerie de DCA se mettent en place. À 21h15, les radars côtiers vont détecter des objets qui apparemment sont à peu près à 190 km de Los Angeles et qui se dirigent vers Los Angeles. À 3h16, on rapporte que des objets volants inconnus sont observés au-dessus de Santa Monica. Alors là, évidemment, on commence à être on prend l'affaire très au sérieux. Et là, immédiatement, l'ordre est donné aux batteries d'artillerie de la DCA de réagir à cette invasion. On va tirer durant les heures. Donc, à partir de 3h30, c'est la réplique. De 3h30 à 7h du matin, les batteries d'artillerie de la DCA vont tirer 1400 obus en direction de ces objets mystérieux qui, littéralement, font du surplace au-dessus de Los Angeles. Et à la levée du jour, aucun aéronef mystérieux n'a été abattu. Ah. On va déplorer 6 décès. 3 civils sont mortes. 3 civils sont mortes par des retombées d'obus. 3 autres sont mortes de crise cardiaque due au stress de cette attaque. Mais, en dehors de ça, pas d'autres victimes et pas d'aéronefs inconnus. Alors, immédiatement, on se demande qu'est-ce que c'était cette invasion? Était-ce les Japonais? Le lendemain, le secrétaire de la Navy, un certain Frank Knox, va dire « Il s'agissait d'une fausse alerte. » Mais une fausse alerte, les gens ont bel et bien vu ces objets.
Ouais.
Les objets ont été détectés par radar. Une photo est présentée d'ailleurs dans le journal Los Angeles Times. C'est une photo légèrement retouchée, mais sur cette photo, on voit les tirs d'obus vers ces objets lumineux au-dessus de Los Angeles. L'affaire, en fait, la bataille de Los Angeles ne sera jamais tout à fait expliquée. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on va avoir accès aux archives japonaises et quand on regarde les archives liées aux attaques contre les Américains, on constate qu'au moment de cette attaque sur Los Angeles, les Japonais n'avaient pas la possibilité logistique de faire une telle attaque. Ils n'auraient pas été en mesure d'envoyer près des côtes américaines des porte-avions pour pouvoir
sans être
détectés et d'envoyer cette armada au-dessus de la côte américaine. Ils ont réussi avec des sous-marins, ils ont réussi sur Pearl Harbor parce qu'on est proche du Japon.
Mm-hmm.
Mais les côtes américaines sont beaucoup plus loin. Donc, les Japonais n'avaient pas la logistique pour mener une telle attaque. Alors, qu'est-ce que c'était ces objets? Hallucination? Hystérie collective? Objets volants d'origine inconnue.
Ça fait beaucoup de monde halluciné.
Voilà. Et éventuellement, mais en 2011, on a fait un film, La bataille de Los Angeles, un divertissement. On s'inspire de cette histoire où là, évidemment, on est envahi par des extraterrestres parce que, bon, évidemment, on va associer OVNI et extraterrestres. Mais dans les faits, cette présence mystérieuse de cette armada au-dessus de Los Angeles dans cette nuit du 24 au 25 février 1942 n'a jamais été tout à fait expliquée. Pour les partisans d'une vision plus sceptique, il s'agit simplement d'une hystérie collective engendrée dans la peur de cette attaque contre les Japonais. Parce que c'est pas la première fois, rappelons-nous, hein, le 30 octobre 1938, lorsque Orson Welles avait fait sa fameuse émission de La guerre des mondes, l'adaptation de cette nouvelle de H.G. Wells. Et là, évidemment, il avait transposé, parce que dans le roman d'H.G. Wells, l'attaque des Martiens se fait à Londres. Wells n'a simplement que transféré le site de l'atterrissage des Martiens au New Jersey, donc en banlieue de New York, et des milliers de gens se sont laissés piéger dans ce théâtre radiophonique et des centaines d'entre eux juraient avoir vu la machine, les machines des Martiens, alors qu'en réalité, tout ça était une pure fiction. Est-ce qu'on est ici en présence d'une hystérie collective qui s'est comme ça déclenchée, répandue dans la région de Los Angeles par cette peur d'une attaque japonaise? Nous ne le saurons jamais. Quoi qu'il en soit, on sait, encore une fois, 1400 obus tirés, aucun aéronef mystérieux n'a été abattu et au lever du jour, il ne restait finalement qu'une peur incroyable et une source inconnu.
Est-ce qu'on va apprendre que c'était finalement le grand-père de ce gars qui travaillait à Hawaï, qui envoyait l'alerte sur l'attaque imminente là, de missiles balistiques qui allait toucher Hawaï? Tu te souviens de ça?
Ouais,
il est arrivé une couple de semaines, puis lui, on lui a dit à quelques reprises que c'était pas pour arriver, mais il a pris ça pour du cash, même si on a dit 6 fois le mot exercice avant.
Absolument.
C'était peut-être le grand-père finalement qui avait le doigt sur le bouton
voilà,
pour envoyer
c'est
les
donc,
obus.
Mais c'est vrai jamais. Que c'est... Et tu sais que dans le cas de l'émission d'Orson Welles, on a refait ça à plusieurs reprises, notamment en Amérique du Sud. On avait incendié la station de radio quand les gens ont découvert que c'était une radio filmée. Ça fonctionne à peu près toujours. Il s'agit d'avoir un climat social qui est un peu... Qui prête flanc à ce genre d'hystérie et rapidement, les gens vont embarquer dans le mouvement. La bataille de Los Angeles, hystérie collective, invasion d'une source inconnue, ou présence d'objets volants non identifiés. La question reste posée.
Là-dessus, M. Page, je vous souhaite une très bonne semaine.
Et toi aussi.
On reprend notre rendez-vous dimanche prochain.
Absolument.
11h35 dans un instant, Sylvie Lavallée.